Bonjour à chacune, à chacun. Je suis un peu plus centré cette fois, donc ça devrait mieux aller par rapport à la dernière fois où j'étais coincé dans mon coin. Vous avez vu que j'ai pu déplacer la chaire, là, c'est assez cool. Puis avant de commencer ma prédication, on m'a dit dans mon oreillette que je devais souhaiter une bienvenue particulière à la famille Luder qui nous visite. Alors soyez les bienvenus parmi nous et puis soyez accueillis. Merci, c'est cool. Comme vous avez vu, on fait un peu une petite série sur le changement. Parce que ça change à la Frate. On s'en réjouit chaque dimanche. Notre bâtiment a changé. On a pu vivre cette période de déménagement. Et puis, une époque de changement, c'est aussi l'époque dans laquelle on vit. Et puis, pour moi qui suis devant vous ce matin, difficile, quand je parle de changement, de ne pas penser à ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, si vous avez entendu tout ce qui se passe cette semaine. Il est question de changement. Il n'est pas toujours dans le bon sens du terme. Quand on voit passer les ouragans, Irma, quand on pense, encore j'ai lu ce matin sur RTS, qu'une partie du village de Sassgrund a dû se faire évacuer par crainte d'un glacier qui est en-dessus de leur village qui menace de s'effondrer. Les changements, on est toujours un peu pris entre ces deux eaux. Il y a des changements positifs. Il y a des changements qui sont négatifs. Alors mon but ce matin, ce n'est pas de faire une prédication sur le changement climatique. Peut-être que je vais en faire une fois, je ne sais pas. Ce serait pas mal à Michel de faire une prédication là-dessus. Mais je vais plutôt parler du changement pour notre communauté, peut-être du changement dans nos vies face aux défis auxquels on est confrontés. Et puis, pour mettre en parallèle des personnages bibliques qui, eux aussi, on fait face et font face à des changements. Et puis si on est dans cette situation de changement, que ce soit dans nos vies ou pour notre communauté, on va vite se rendre compte qu'on est en très bonne compagnie si on médite un peu la parole de Dieu. Nous allons vite nous rendre compte que plusieurs personnes importantes, plusieurs personnages bibliques majeurs ont vécu des changements et des changements notoires. Lors du dernier culte aux Horizons, je nous avais laissé ce verset de Jean qui évoque la paix au cœur des changements. Jésus qui dit à ses disciples, à la veille de l'équité, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière de ce monde que je vous la donne, que votre cœur ne cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. » Cette paix, elle n'est pas là juste pour que nous en profitions et que nous ayons un repos comme sur une transat. Au bord de la plage, nous l'avons vu, mais c'est une paix qui nous est donnée précisément au cœur des changements de nos vies. Et aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple, après celui des disciples, je vais prendre celui d'un homme dont il a déjà été question en ce début de culte. L'histoire d'un homme dont la vie est absolument extraordinaire parce que remplie de changements. Et tout commence par un changement. C'est ce qu'on lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 31 à 32, et ensuite on lira le début du chapitre 12 pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Genèse 11, 31 à 32. Terah prit Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, des Sabru, Saraï, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où ils habitèrent. Terah vécut 205 ans, et il mourut à Haran. Le Seigneur alors dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Jusqu'ici, notre lecture, notre méditation biblique. On le voit, tout commence dans la vie d'Abraham par un changement. L'histoire même d'Abraham commence par un changement, un ordre de Dieu, et Abraham qui obéit et qui va à la suite de Dieu sur le chemin qu'il lui a tracé. Et avant de nous intéresser à Abraham et à sa réponse, je vous invite d'abord à nous intéresser à Dieu. Tout simplement, la Bible nous parle de témoins, de personnages bibliques, mais avant tout, elle nous parle de Dieu. Et là, qui est-il ce Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne un changement, il ordonne à Abraham de prendre une autre direction. Dieu, on le sait bien, on s'en fait des images très différentes, c'est inévitable. Souvent, il faut bien le reconnaître, Dieu est plutôt perçu comme quelqu'un de figé, peut-être parce que nous, chrétiens, chrétiennes, nous témoignons de cette image-là, qui sait. Pourtant, si on lit la Bible avec un tant soit peu d'attention, et si nous la lisons avec cette attention particulière au changement, on se rend vite compte que Dieu est loin, très très loin, d'être un être figé. Au contraire, avec quantité de grands hommes et de grandes femmes de foi, Dieu est à l'origine même du changement. Il est à l'origine de ce que nous avons pu appeler du dérangement. Pour l'homme qui nous occupe aujourd'hui, il n'en va pas autrement. Abraham est victime, entre guillemets, d'un ordre de changement de la part de Dieu, alors qu'il pouvait légitimement aspirer à autre chose. Quand on a 75 ans, ce n'est pas évident de tout changer, du tout au tout, pour suivre l'ordre de Dieu. Et pourtant, le Dieu dans lequel nous plaçons notre confiance, le Dieu dans lequel nous croyons, lui ordonne de le faire. Et il y en a plein d'autres, des exemples. Si on pense à Noé, quelques chapitres en avant, je ne sais pas quelques années en avant, je n'ai plus par cœur, mais quelques chapitres en avant, Noé, il aussi est aussi plutôt âgé, et Dieu lui ordonne de faire quelque chose qui sera un grand changement dans sa vie. Il lui ordonne de tout quitter pour construire une arche parce qu'il prévoit qu'il y aura un grand déluge par la suite. Non, il n'avait absolument aucun indice de ce qui allait se passer. Et pourtant, Dieu lui ordonne ce changement dans sa vie et lui dit « Fais ça ». Et Noé se met en action. Dieu est un Dieu qui est souvent à l'origine des changements et des changements peut-être dans nos vies. Ce n'est pas un Dieu qui reste figé, statique ou conservateur. C'est un Dieu qui bouge, qui ordonne d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre. Et puis finalement, c'est un peu ça, faire de la théologie, ce bien grand mot. C'est essayer de parler sur Dieu le moins à côté de la plaque possible. Avant de s'occuper du destin de l'homme Abraham, qui nous rejoint toujours plus directement, c'est faire ce crochet par la case de Dieu et se demander ce que la Bible dit et a dit de ce Père qui est aux cieux. Et puis se façonner petit à petit une image biblique réelle de qui est Dieu. Et ce matin, on se rend compte que ce qui est Dieu est un Dieu qui nous trace un chemin et que ce chemin peut être un changement permanent. Un changement qui nous guide malgré peut-être nos réticences. C'est bizarre de se dire que c'est des changements qui peuvent guider nos vies. Si on lit les histoires de ces personnages, c'est un peu l'élément qui ressort, d'après moi. Et nous croyons fermement que c'est le même Dieu qui nous dit d'oser changer, et c'est le même Dieu qui nous dit « Je reste le même pour toi à toujours et à jamais ». Ce qui est sûr, c'est que notre Dieu ordonne le changement, et dans le même temps, il met tout en œuvre pour l'accompagner. Ce n'est pas un Dieu qui nous dit « va là », puis ensuite il nous laisse nous débrouiller tout seuls comme des grands à faire notre petit programme. Si Dieu ordonne le changement, c'est parce qu'il tiendra sa promesse d'être avec nous sur ces chemins de changement. Comme nous l'avons médité lors de ce dernier culte aux horizons, lorsqu'il nous dit « je vais partir, je vous laisse ma paix », Dieu nous accompagne dans ce chemin de changement en nous offrant à jamais sa paix. Pour Abraham, sa réponse est assez impressionnante. Je ne sais pas si vous avez vu dans ce texte, c'est très direct. Il reçoit cet ordre de Dieu de partir. Le verset plus loin, il part. Il met complètement sa confiance en Dieu, dans ce Dieu qui lui ordonne de changer radicalement son axe de vie. Et à travers cela, Abraham prend un nouveau départ dans sa vie, qu'il commence à vivre, j'ai envie de dire, pour lui-même, et non plus en fonction de l'héritage de son père ou de ses pères. Contrairement à tout ce qui a pu être dit, ce n'est pas un reniement du passé. Ce départ d'Abraham n'est pas avant tout un reniement du passé, et ce n'est même pas du tout un reniement du passé. C'est plutôt pour Abraham un nouvel envol, un nouveau départ vers quelque chose que Dieu lui promet. Il s'approprie à son tour la promesse de Dieu. Parce que des voyages, il en a déjà fait avec son père. Ce n'est pas le fait de quitter un endroit pour aller à un autre qui importe dans ce domaine-là. C'est que pour la première fois, Abraham a reçu un appel dans son cœur à lui, pas dans le cœur de son père, et que lui-même a pu prendre cette décision de quitter la ville où il était et d'aller rejoindre le pays de Canaan. Il a pu lui-même s'approprier cette promesse. Et je crois que le parallèle pour notre vie de communauté, il est assez évident, puisque à travers ces nouveaux locaux rénovés, c'est aussi en quelque sorte un nouveau départ d'ouverture vers la ville, d'accueil vers les autres qui nous entourent ici au cœur de Nyon, que nous voulons essayer de prendre. Si on pense au message de la bonne nouvelle, notre volonté d'aller à la rencontre de l'autre pour l'accueillir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes celles et ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi ont essayé de vivre tout cela avec tout leur cœur et nous en sommes les témoins vivants. C'est plutôt un nouveau départ dans le sens comme Abraham de se dire, il nous semble avoir perçu la voix de Dieu qui nous disait « Allez là pour vous maintenant en 2017 dans cette direction et tâchez de prendre pour vous en tant que communauté à cœur ce nouveau départ d'aller à la rencontre de l'autre. » Ce n'est pas renier le passé, c'est s'approprier la volonté de Dieu, peut-être pour notre moment, en 2017, de notre vie communautaire. Il y a encore quelqu'un qui me disait au week-end d'église, sur ce qu'on partageait, sur cette vision de la frate, d'aller à la rencontre de l'autre pour partager l'amour de Dieu. Il vient me dire, puis il me dit, « Mais David, ça fait des années qu'on fait ça, ça fait des années qu'on essaye de faire les choses. » Puis je dis, « Bah ouais, t'as raison. » Le but maintenant, c'est simplement de le reprendre tout à nouveau, à notre compte, comme Abraham qui a pu prendre ce nouveau départ, pas comme il l'avait pris avec ses pères, mais le prendre et le faire monter en lui et pour lui. Écouter la voix de Dieu pour nous et notre vie communautaire. Alors Abraham quitte la terre de son père, à Haran, pour aller en Canaan. Et c'est un changement précurseur de quelque chose de beaucoup plus grand. Puisque quelques siècles plus tard, le peuple d'Israël viendra effectivement s'établir dans ce pays que Dieu avait promis à Abraham. Et dans tous les changements, pas dans tous les changements, mais en tout cas dans ce changement-là, c'est impressionnant de voir à quel point il est accompagné d'une promesse. Que ce changement est précurseur de quelque chose de beaucoup plus grand et qui nous dépasse. C'est ce qui arrive à Abraham. Alors qu'il ne s'est même pas encore mis en route, Dieu lui partage son cœur, son plan pour sa vie. Et ce plan, c'est de devenir le père d'une multitude, alors que cet homme a 75 ans et qu'il est sans enfant. Le contenu de cette promesse, c'est d'obtenir une grande descendance et un grand pays, et d'être en bénédiction pour une multitude, alors qu'il se retrouve seul. Ou presque, au niveau de sa descendance. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Imaginez la puissance de cette promesse alors qu'il n'y avait encore rien de palpable. C'est un peu comme Noé quand il lui dit « construis une arche » et qu'il n'y a encore rien de palpable. Et souvent dans nos vies, ces changements, lorsqu'ils viennent de Dieu, ils ne sont pas directement palpables. Et ils ont besoin de notre foi, de notre adhésion de cœur pleine et entière pour se dire « il y a certainement quelque chose de plus grand qui nous attend ». Parce que j'ai bien aimé ta phrase, « là où nous voyons nos limites dans nos changements, Dieu voit des portes ouvertes. » Lorsque l'on voit nos limites, Dieu voit des portes ouvertes. Promesse et changement, c'est la même chose que paix et changement. C'est deux choses qui vont ensemble lorsqu'on s'attarde sur ces exemples qui nous viennent de la parole. Là, Dieu accompagne cette nécessité du changement d'une promesse qui va se réaliser. Mais si l'on regarde et qu'on s'attarde sur le comment de cette réalisation, on voit que c'est loin d'être tout facile, tout simple. C'est loin d'être une paire de patins à roulettes à la descente. Parce qu'à peine arrivé en Canaan, si on suit simplement l'histoire d'Abraham, on se rend compte que les problèmes commencent et puis que la promesse paraît très, très, très éloignée. À peine arrivé en Canaan, vous savez ce qui se passe, vous vous souvenez ? Non, il n'y a personne qui se souvient. Il y a une famine, exactement. Dieu lui promet quoi ? Qu'il serait béni, qu'il y aura plein de bénédictions, qu'il sera en bénédiction pour d'autres, qu'il va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il arrive à l'endroit même du lieu de la promesse. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la famine. Comment comprendre ? On n'est pas dans le cœur d'Abraham, il ne s'exprime pas. Mais là, précisément, au lieu où Dieu décide d'aller, il y a une souffrance énorme qui oblige Abraham à s'enfuir une fois de plus pour retrouver un pays où il y a plus de nourriture, en Égypte. Et puis là, il est fortement embêté, là on le sait. On sait un peu quels sont ses sentiments puisqu'il doit inventer un stratagème pour essayer d'éviter que sa femme ne soit sa femme. Alors il dit que c'est sa sœur. Et puis ensuite, on remarque que ce choix, ce n'est pas forcément le meilleur des choix, parce qu'il est guidé par la peur. Et puis au fur et à mesure du temps, le pharaon, il la trouve belle, mais il pense que c'est sa sœur, mais en fait c'est sa femme. Et quand il se rend compte de tout cela, il est très fâché et il renvoie Abraham et toute sa clique loin d'Égypte. Finalement, constat d'échec patent. Abraham est renvoyé, séance tenante. Un peu plus loin, on se rend compte que Abraham, au chapitre 13, doit se séparer de Lot, son neveu. Finalement, la seule famille de sang qui lui reste, Dieu lui ordonne de se séparer de lui. Je vous rappelle toujours la promesse qui était attachée à ce changement dans la vie d'Abraham, hein, d'être en bénédiction pour quantité de familles, des quantités de familles sur la terre, et notamment la sienne de laquelle tout allait découler. Là, la seule famille qui lui reste, ce Lot, son neveu, il n'est plus là. Il décide de prendre des chemins différents, de se séparer. Encore un changement difficile à comprendre et difficile à mettre en lien avec la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Au chapitre 14, on poursuit l'histoire, on se rend compte qu'Abraham se retrouve au milieu d'un conflit entre les différents rois de la région. Il est là au milieu, il ne sait pas exactement quoi faire, mais toujours est-il qu'un conflit armé, c'est jamais très, très, très drôle. Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Il risque sa vie pour essayer de mettre fin à ce conflit. Et ce risque s'avère payant, puisque ensuite il devient une figure d'autorité dans la région qu'il habite. Mais de nouveau, on aurait aspiré à quelque chose d'autre comme changement. Ce n'est pas exactement le changement en rentrant en Canaan auquel il s'attendait. Lui qui pensait avoir cette terre de paix, cette terre de prospérité, il arrive et il se retrouve au milieu d'un conflit. Encore un changement incompréhensible aux yeux des hommes. Si bien qu'on arrive à ce chapitre 15 dans la suite de l'histoire d'Abraham, puis on le retrouve là, légitimement, un peu au fond du bac. Il se demande où il en est, qu'est-ce qui se passe bien dans sa vie, et on le comprend. Et là, Dieu intervient. Dieu lui parle et lui dit les choses suivantes. Il lui dit, « Abraham, ne crains pas. Ton bouclier, c'est moi. Et ta solde sera considérablement accrue. » Et Abraham lui répond, « Mais Dieu, mais qu'est-ce que tu vas me donner ? Qu'est-ce que tu vas encore me faire subir ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, un étranger. » Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui héritera de moi. Là, je ne sais pas si vous sentez la pointe d'ironie dans la question d'Abraham. Il est en train de te dire, mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Tous ces changements, ça ne va absolument pas dans la direction de la promesse. Alors le Seigneur Dieu lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Point. Il répète simplement, il reprend exactement les mots de la promesse qu'il lui a donnée quelques années auparavant. Et ensuite, il le mène dehors, il lui fait vivre une expérience unique dont vous vous rappelez certainement. Il lui dit « Contemple le ciel, compte les étoiles, si tu peux par hasard les compter. » Puis il lui dit « Telle sera ta descendance. » Et la réponse d'Abraham est de nouveau admirable. Il lui dit « Abraham, il nous a dit, Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. » Abraham a foi alors que tous les changements qui lui arrivent ne vont absolument pas dans le sens du changement radical qui lui a été demandé. Quel exemple de foi pour nous, alors que souvent on est ballotté, on se demande dans quelle direction on va, de rester fidèlement accroché à la promesse de Dieu pour nos vies privées, comme pour notre vie communautaire. Dans la Bible, promesse et immédiateté ne vont pas forcément ensemble. C'est un peu le contraire d'avec les enfants. Pour eux, enfant et immédiateté, c'est deux termes qui vont très bien ensemble. Je m'en suis encore rendu compte ce matin au petit déjeuner. Lorsque l'on dit quelque chose, il faut que ça s'exécute dans la seconde qui suit, sinon la frustration est parfois difficile à gérer. Souvent, nous sommes un peu comme ces enfants, hein. Avec Dieu, on est souvent comme ses enfants, puis lorsque les promesses, leur réalisation se fait attendre, on réagit fort, et ce n'est pas un problème. On peut exprimer cette frustration, et puis j'aime bien cette idée de se dire que ce que nous exprimons, y compris notre frustration ou notre souffrance, ça reste des prières que nous élevons vers Dieu. Mais dans le même temps, Dieu nous invite à regarder plus loin et à aller au-delà de ces péripéties, de ces changements qui peuvent nous troubler, pour rester fidèlement attachés à la promesse qu'il a posée sur nos vies. Promesse et immédiateté dans la Bible, ça ne va pas forcément si bien que ça ensemble. Et c'est ce que l'on voit dans le chapitre 12 des Hébreux, lorsque il reparle, l'auteur des Hébreux, de tous ces exemples de foi qui sont là pour nous. Et lorsqu'il parle d'Abraham, il dit ceci. « Dans la foi, ils moururent tous, sans avoir obtenu la réalisation des promesses. Mais après les avoir vus et salués de loin, et après s'être reconnus pour étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie et les avaient eus dans l'esprit, celle dont ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner. En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a en effet préparer une ville. » Alors que tout change, peut-être que nous sommes troublés dans nos vies, les promesses de Dieu, elles, ne changent pas. Elles restent toujours là et toujours là pour nous y accrocher, toujours là pour les entendre à nouveau. Et je reprends cette phrase que là où nous pouvons voir nos limites, Dieu voit des portes ouvertes. J'aimerais vous inviter maintenant à prendre un moment de méditation, de prière, entre vous et Dieu, pour peut-être vous remémorer et faire remonter à la surface les promesses que Dieu vous a faites en tant qu'individu. Et pourquoi pas que nous puissions nous remémorer les promesses que nous avons reçues en tant que communauté. On peut aussi se poser la question, est-ce que ces promesses impliquent un changement dans ma vie, dans notre vie communautaire, que peut-être on n'a encore pas eu le courage de faire. Là, je prends un petit exemple personnel. Hier et la semaine passée, on a vécu deux expériences fortes avec le festival Connexion. Expérience forte parce qu'on pouvait se demander si Dieu était vraiment avec nous au niveau de la météo qui nous est tombée dessus. Il fait beau toute la semaine, on fait un festival en plein air, et les deux samedis, on reçoit des trombes d'eau sur la tête. Je me suis un peu senti, à toute proportion gardée, comme Abraham qui se demande un peu quoi faire, que penser de tout cela. Et puis on finit notre après-midi soirée d'hier, avec toute l'équipe dans le quartier des Tadois, à la route des Uns aussi. Et puis, on se dit, mais toutes les personnes qui sont venues, toutes les personnes avec qui on a eu des contacts, tous les enfants qui sont venus, on était beaucoup, beaucoup plus qu'espérés. Si on m'avait dit ça le matin, alors que je regardais ma fenêtre dehors, parce que j'étais confortablement installé dans mon fauteuil, j'y aurais absolument pas cru. Et pourtant, par la foi, on a décidé, surtout Alain, il a décidé d'y aller, et puis de se dire, allez, on y va, on ne perd rien, de toute manière, on peut aller de l'avant et on verra ce qui se donne. De nouveau, là, c'est un changement dans ma vie parce que je me suis dit, voilà, j'étais un peu sceptique, et il y a quelque chose de fort qui s'est donné. Mais c'est aussi un changement pour moi, simplement d'organiser ces manifestations. Parce que si on m'avait dit un jour que je serais en tant que pasteur un peu à l'origine, puis le moteur pour ce genre de manifestation, certainement que je n'y aurais pas cru. Parce que ce n'est pas exactement ce pourquoi je me sentais vibrer au plus profond de moi. Je me disais, bon, ben ça va pour ceux qui ont le ministère d'évangéliste, ils peuvent très bien y aller, ils vont s'occuper de ce domaine-là, de la mission, moi je vais faire autre chose. Puis je crois que Dieu gentiment a mis dans mon cœur cette idée de se dire, mais voilà, les gens, si tu ne les rencontres pas là où ils sont, sur qui d'autre je vais pouvoir compter? Et un changement s'est petit à petit opéré, différentes étapes dans ma vie. Puis maintenant, je crois que je suis assez convaincu du bien fondé de ces projets-là, parce que les rencontres que l'on fait, elles sont riches de sens, parce que Dieu agit à travers nous. Alors je nous laisse ces questions. Est-ce que ces promesses que Dieu a faites sur nos vies impliquent un changement dans nos vies, dans ma vie, peut-être même dans notre vie d'église communautaire? Et encore cette dernière question, est-ce que ces changements non désirés, ces péripéties, comme la vie d'Abraham nous le montre, est-ce que ces changements non désirés ont peut-être quelque part obstrué la vision de la promesse reçue? Et puis si c'est le cas, je nous invite chacun, chacune, à nous remettre devant Dieu et puis à pouvoir poser les obstructions que les circonstances ou le malin vient poser sur nos chemins de vie. Puis de pouvoir prendre position puis de dire non, là j'appelle ça une obstruction et ce n'est pas un changement voulu par Dieu. Non, là ce n'est pas la volonté de Dieu sur ma vie que cette chose soit devenue une réalité. Et je décide fermement de prendre cette chose et de la remettre dans la prière et de dire je refuse qu'elle obstrue la promesse de Dieu de bénédiction pour ma vie. Alors j'invite peut-être Michel ou Valérie, ou bien seulement Michel à venir me rejoindre et puis que nous puissions prendre en toute quiétude de la paix que Dieu nous offre ce moment de méditation personnelle pour que nous puissions réfléchir à ses promesses et les changements qui sont peut-être nécessaires, ou pouvoir dire stop à ces changements non désirés qui ont pu obstruer la vision de cette promesse reçue de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu es un Dieu qui est un Dieu en mouvement. Merci parce que ton Saint-Esprit souffle sur nous, souffle dans nos cœurs. Et Seigneur, je te prie que dans ce moment que nous allons vivre de nous retrouver devant toi et face à toi, nous puissions t'apporter les fardeaux qui ont pu obstruer la promesse sur nos vies et que nous puissions peut-être aussi dans le même temps formuler nos désirs de changement dans nos vies et dans notre vie communautaire. Seigneur, tu veux nous montrer la voie pour que nous puissions pleinement prendre en main et en vérité les promesses que tu fais sur nos vies. Amen.